les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Héloïse Rouard, Sophie Sourdiocourt, Alexandre Marlier.
On sort les crocs, Alex. Aujourd'hui, on va nous parler de Vampire Diaries.
Effectivement, Héloïse, série phénomène chez les ados. The Vampire Diaries a été créée par Kevin Williamson, scénariste entre autres de Dawson et des films Scream, et par Julie Plec, qui a travaillé sur Kyle XY et Scream également. Ces deux spécialistes des fictions pour teenagers se lancent dans le surnaturel en adaptant pour la chaîne CW les romans de L.J. Smith. La série se place en tête des audiences de la chaîne et rempile pour une quatrième saison. Outre l'univers fantastique, le thème récurrent sera le triangle amoureux formé par Elena, collégienne bouleversée par la mort récente de ses parents, et Stéphane et Damon Salvatore, deux frères vampires de retour dans la petite ville de Mystic Falls. Pour évoquer la série aujourd'hui, Sophie Sourdiocourt, bonjour.
Bonjour.
Alors Sophie, doit-on s'attendre à Dawson chez les vampires ?
Ben, y a un peu de ça, hein. Surtout dans le pilote et la première partie de saison. Les créateurs ont vraiment mis du temps à s'échapper du soap opéra pour ados et à assumer pleinement la dimension surnaturelle de la série, ce qui a mis beaucoup de longueur et fait stagner le show. Mais je vais commencer un peu par vous raconter l'histoire de Mystic Falls et de Vampire Diaries. La série commence le jour de la rentrée scolaire. Elena et son frère Jeremy ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Ils gèrent ça de manière très très différente, alors que Jeremy se drogue et deal. Elena, la gentille fille, décide d'aller de l'avant. Mais elle peut compter sur ses amis, heureusement. Alors là, on est bon pour tous les clichés d'américains étudiants. Caroline, la bimbo blonde, Matthew Tyler, les joueurs de foot, Bonnie, le quota black qui découvre qu'elle a des ancêtres sorcières, et je vous en passe. Et là, on se dit, oh mon Dieu.
Est-ce qu'elle est cheerleader ?
Évidemment, avant la mort de ses parents, Elena était cheerleader, et Caroline, et Bonnie aussi. Donc, Elena rencontre Stéphane Salvatore, le gentil vampire, qui est troublé par la ressemblance d'Elena avec son ancienne amante, le vampire Catherine. Alors que ces deux-là se comptent fleurettes, le frère de Stéphane, Damon, le méchant vampire, revient lui aussi à Mystic Falls dans le but de pourrir la vie de son frère.
Damon qui porte bien son nom, n'est-il pas ?
C'est très subtil. Donc on le voit, on est dans une conception très très manichéenne. Jérémy, méchant frère, Elena, gentille sœur, le méchant, le gentil vampire. Heureusement, ça va un peu s'éclaircir. Damon, lui, est toujours obsédé par Catherine, le vampire qui les a engendrés, lui et son frère. Alors là, on doit faire un petit flashback. On doit revenir à Mystic Falls pendant la guerre de sécession. Stéphane et Damon Salvatore sont encore humains. Ils vivent avec leur père et hébergent une charmante jeune fille qui est le parfait sosie d'Elena. Et c'est Catherine Petrova. Celle-ci fait partie d'un groupe de vampires installés à Mystic Falls. Devant l'abondance de cadavres exsangues, le conseil de la ville fait la chasse aux vampires. Et grâce à une plante nommée la veine de Vénus, vervain en VO, mais verveine ça faisait un peu cloche, la veine de Vénus réussit à affaiblir les vampires et le conseil les enferme dans une église à laquelle ils mettent le feu. Et les frères Salvatore se font tuer en essayant de libérer Catherine et ils deviennent vampires parce qu'elle leur a fait boire son sang pendant des mois. Donc ça, c'est pour le flashback, ce qui va expliquer évidemment tout ce qui se passe dans la ville, toutes les interactions entre les personnages. On revient au présent. Damon a appris que Catherine et les autres ne seraient peut-être pas morts finalement dans l'église, mais ils seraient bloqués dans une crypte protégée par un sort. Donc évidemment, il va tout mettre en œuvre pour faire sortir Catherine. Entre-temps, Elena apprend évidemment que les frères sont des vampires, elle est d'abord horrifiée, puis elle décide de continuer sa relation avec Stéphane, et puis non, et puis oui, et puis non, et puis oui. Pas très intéressant, et ça c'est toute la première partie de la première saison. Heureusement, la deuxième partie de saison prend un autre rythme. Bonnie va développer ses dons de sorcière, et sous la contrainte, elle ouvrira la crypte. Mais surprise, évidemment, Catherine n'y est pas. Oh, mon Dieu! Par contre, les vampires qui s'y trouvent sortent et mettent la pagaille dans la ville et rebelotent le conseil donc actuel des descendants des fondateurs, se réactivent, ils trouvent un nouveau piège à vampires, ils démasquent les suceurs de sang et évidemment les frères Salvatore s'en sortent, sinon la série serait déjà finie. Mais le piège à vampires, qui émet une fréquence inaudible pour les humains, un peu comme pour les chiens, révèle la présence en ville d'une autre espèce, les loups-garous. Et donc cet axe-là sera exploité dans la deuxième saison et donnera un peu plus de vent nouveau aux intrigues.
Ça s'appelle pas Twilight en fait.
Ben on n'est pas loin quand même.
Parce qu'entre le triangle amoureux, les loups-garous, les...
Exactement.
C'est un peu putassier.
Voilà, on sent... Alors, les romans de L.J. Smith ont été écrits avant ceux de Stephanie Meyer quand même.
Plagiat.
L'axe, effectivement, du triangle amoureux va rester... sur les trois saisons, ce qui est un peu dommage et ce qui donne beaucoup de redondance. Par contre, la mythologie va vraiment, vraiment s'ouvrir au fur et à mesure des saisons, ce qui va rendre la série nettement plus intéressante. Alors, on n'est pas dans Twilight parce que les vampires sont un peu moins lisses quand même que Edward Cullen qui brille au soleil. C'est pas difficile.
Un peu lisse, mais en même temps, le casting du film n'est pas non plus... Robert Pattinson, Kristen Stewart ne sont pas non plus des acteurs...
À forte personnalité.
À forte personnalité, oui.
Ben oui, c'est un peu le cas aussi dans cette série et j'y reviendrai un peu plus tard.
T'es arrivé quand ? Oh, j'allais pas louper la rentrée, non ? Pas mal ta nouvelle coupe de cheveux ?
J'aime bien.
Ça fait 15 ans. Damon.
Oh, alléluia!
Je haïssais les années 90. Et ton horrible look grunge. C'était une horreur. Un bon conseil, Stephen. Ne jamais succomber aux tendances.
Pourquoi t'es revenu ici?
Mon petit frère me manque.
C'est une petite ville où il se passe rien. Qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire?
T'inquiète pas, je sais comment m'occuper.
Tu sais que t'as laissé la fille en vie? C'est pas très malin, ça.
Ah, ça pourrait être un problème. Pour toi.
Pourquoi t'es revenu maintenant ?
Et toi alors, frérot ? On se demande, bien qu'en fait, c'est pas très difficile de deviner que ta réponse se résume à un seul petit mot. Elena. Tu sais qu'elle m'a coupé le souffle. Elena. Le parfait sosie de Catherine. Alors, ça le fait ou pas ? De pouvoir la voir, de pouvoir lui parler, c'est bon ? Tu te sens vivre ?
Elle n'est pas Catherine.
Ouais, bah j'espère. On sait comment ça s'est fini. Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu t'es tapé un truc un peu plus corsé que du sang d'écureuil ?
Je sais où tu veux en venir et ça marchera pas.
Allez, mec, à vous ! Dis que t'as soif !
Arrête avec ça !
Allons-y, tous les deux. J'ai déjà repéré quelques meufs dans le coin. Ou alors on pourrait aussi s'épargner la chasse et s'attaquer à Elena.
Je dis arrête ! Rappelle-toi le bon goût du sang frais ! Tu l'as en bouche ?
Moi, je l'ai. J'ai été clair, j'ai dit arrête !
L'histoire du triangle amoureux passé, on est, comme tu dis, davantage dans la mythologie. Quelles sont un petit peu les créatures qu'on rencontre à travers la série ?
Bah alors, il y a les humains, mais il y en a de moins en moins au fur et à mesure de la série. Dans la catégorie humain un peu surnaturelle, il y a Elena et Catherine, qui sont des doubles de Doppelganger, qui vient d'un mot allemand. Elles sont des sosies parfaits, en fait, qui reviennent tous les 500 ans. Pour permettre à la mythologie d'avancer. On a les vampires, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ceux-ci ? Non, ils ne brillent pas. Ils brûlent au soleil, sauf s'ils sont protégés par une bague en lapis lazuli et un charme de sorcière. Ce qui est très pratique, évidemment, ce qui permet aux scénaristes de faire sortir les vampires en plein jour. Ils meurent d'un pieu dans le cœur, évidemment. Ils sont affaiblis par la veine de Vénus. Et ils peuvent mourir d'une morsure de loup-garou aussi. Alors, on va comprendre au fur et à mesure qu'au cours des siècles, les vampires ont essayé de massacrer tous les loups-garous, ce qui fait qu'il y en a de moins en moins. Évidemment, ils sont super rapides et super forts, comme les loups-garous. Eux sont affaiblis par une plante qui s'appelle l'aconie. Ils meurent quand on leur arrache le cœur, ce qui donne quelques petites scènes un peu gore dans la série. Pour limiter la force de ces deux espèces dominantes, un chaman a créé un sort avec une pierre de lune et le sang de la lignée des Petrova, donc des doubles, de sorte à ce que les vampires ne puissent plus sortir de jour et que les lycanthropes ne se transforment en loups qu'à la pleine lune. Ce qui explique que tant de personnes soient à la recherche d'Elena pour briser ce sort justement et permettre aux vampires et aux loups-garous d'avoir une superpuissance tout le temps. On a des sorcières, mais qui ne sont pas hyper intéressantes et qui sont souvent sorties du chapeau des scénaristes pour débloquer des situations. On n'en apprend pas beaucoup sur elles. La bonne surprise de la deuxième saison, ce sont les vampires originels. Ils vont vraiment donner du piquant à la suite. Ce sont les tout premiers vampires sur Terre. Ils ont plus de 1000 ans. En fait, la famille Michelson vivait dans une communauté dans les bois et était souvent victime des attaques de loups-garous. Alors la mère Esther, qui est aussi une sorcière, décide de créer un sort pour transformer sa famille en surhomme, capable de résister aux attaques des lycanthropes. Il y a 4 frères et une sœur et ils sont maintenant vampires. Klaus va se révéler le pire de tous et c'est lui qui va vraiment donner une autre dimension à la deuxième et à la troisième saison parce que tout le monde va vraiment le craindre. Et de fait, c'est vraiment un sociopathe. Il va enfermer sa famille dans des cercueils avec un pieu dans le cœur pour les garder près de lui et pour être sûr de ne pas subir leur attaque. Et il va se mettre à la recherche d'Elena, évidemment, pour rompre le sort. Mais lui, c'est pour pouvoir être à la fois loup-garou et vampire. Parce qu'en fait, Klaus est le seul enfant de la fratrie dont le père est un loup-garou. Donc il va vouloir briser le sort, ce qui fait de lui un hybride avec une hyper-puissance qui est capable de vaincre toutes les autres créatures. Son père adoptif n'aura plus qu'une seule mission après ça, tuer son fils sociopathe incontrôlable. Et va devenir le premier chasseur de vampires. Bon, il y a aussi des fantômes dans la série, visibles uniquement par Jérémy et Matt, après une expérience de mort express. Mais c'est de nouveau du remplissage et du déblocage de situation, pas très intéressant.
Comment se déroule un peu la cohabitation, donc à la fois entre ces différentes créatures, mais aussi à la fois avec les humains? Enfin, tu dis qu'il y en a de moins en moins, je suppose qu'il y a des morsures, ce genre de choses, des sorts qui sont faits, etc. Est-ce qu'ils savent d'emblée, les humains, qu'il y a ces créatures qui vivent avec eux? Ou est-ce qu'ils apprennent au fur et à mesure? Est-ce qu'ils les tolèrent?
On sait de par le passé que les fondateurs de la ville, donc le conseil de la ville, est au courant de l'existence de vampires. Donc ça, c'est à la génération des parents. Par contre, les ados ne sont absolument pas au courant et vont le découvrir au fur et à mesure. Donc Elena en premier, Caroline, l'autre copine aussi, va finir par le découvrir parce qu'elle va devenir vampire. Donc c'est vraiment au fur et à mesure, et encore sur la fin, quelques personnages principaux qui ne sont pas au courant de l'existence des vampires et des loups-garous. Mais ça devient très rare, évidemment, parce que tout le monde, évidemment, va se liguer d'un côté ou de l'autre pour combattre l'autre espèce. Donc on va vraiment avoir des clans, ce qui donne aussi l'intérêt à la série, heureusement.
Concrètement, le carcan de base n'est pas très différent des mythologies traditionnelles. On est loin de ce que peut proposer True Blood, par exemple, en inventant des humains et des lycanthropes qui cohabitent, ou l'apparition de fées au milieu du jeu de qui. Peu d'originalité.
Oui, tout à fait. Je veux dire, on n'est pas du tout ou True Blood, où dès le départ, les humains sont courants de l'existence des vampires. Là, on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans une trame classique, peut-être à la Buffy avec moins de démons et une mythologie certainement moins intéressante. Mais oui, effectivement, dans le cadre de base, on est plus sur Twilight.
Tu cites Buffy, justement. Est-ce que cette histoire sous-tend un sous-texte?
Nettement moins que dans Buffy. On n'a pas les métaphores comme dans Buffy. Il y a quand même quelques parallèle, on sent qu'ils essaient quand même de faire un parallèle entre la guerre de sécession, la chasse aux vampires, mais c'est un peu lourd et c'est pas très développé. L'évolution aussi des personnages, on sent qu'Elena, au départ, est vraiment une jeune fille en fleurs. Elle va évoluer avec le fait d'apprendre qu'il y a tous ces vampires, toute cette vie surnaturelle. Et on sait, bon, de par les livres, évidemment, qu'elle va finir par être un vampire, mais on ne sait pas quand. Donc on peut tenter de voir ça, d'extrapoler ça vers le passage de la jeune fille à la femme accomplie, mais il faut vraiment aller chercher loin. Je veux dire, on n'est pas vraiment dans quelque chose aussi évident que dans l'univers de Joss Whedon.
La série, malgré tout, empile pas mal les stéréotypes. Est-ce que pour le générique, justement, on est aussi ici dans un stéréotype? Est-ce qu'on est plutôt dans une bande musicale plutôt rock, plutôt tendance avec des images colorées ou en tout cas plutôt violentes? Est-ce qu'on est là-dedans pour le générique de cette série?
Le générique dure une seconde et demie et il y a juste le titre et ça fait deux notes. C'est un générique très fainéant.
Un carton-titre.
Voilà, mais par contre, pour la bande-son, on a plein de choses intéressantes. La musique reste très souvent, même derrière les dialogues. La musique est toujours présente, une musique de fond, à la Muse, Placebo, on est là-dedans.
Donc on retrouve ce côté un peu rock tendance qui marque pas mal ce type de série.
Tout à fait.
C'est la pleine lune ce soir. Il faut s'attendre à ce que Klaus soit prêt à briser la malédiction.
Elena m'a dit que la prophétie aztèque avait été inventée de toutes pièces, que la vraie malédiction pesait uniquement sur Klaus.
Klaus est un vampire issu d'une lignée de loups-garous. Le sort empêche le loup-garou qui est en lui de s'exprimer, mais si jamais il parvenait à le briser, il deviendrait un hybride.
Alors pourquoi on le laisse aller jusqu'au bout? On pourrait le tuer aujourd'hui,
grâce à Bonnie.
Démon.
Elle ne peut pas gérer autant de pouvoir sans risquer de mourir.
Et alors, je vais écrire un bel éloge funèbre.
C'est hors de question, n'insiste pas.
Bon, alors on la brise comment, cette malédiction?
Le rituel en lui-même est d'une relative simplicité. Quant aux ingrédients, si je puis m'exprimer ainsi, vous les connaissez.
La pierre de lune.
Une sorcière va utiliser l'énergie de la pleine lune pour libérer le sortilège qui est bloqué dans la pierre. Ensuite, Klaus, qui sera à la fois loup-garou et vampire, sacrifiera un représentant de chaque espèce.
Et moi, j'arrive à quel moment?
À la toute fin du rituel. Klaus doit boire le sang du double Petrova jusqu'à la dernière goutte.
Et c'est là que vous intervenez.
Ceci est un élixir dont j'ai fait l'acquisition il y a 500 ans pour Katerina. Cette préparation confère à celui qui la boit un pouvoir de résurrection.
Donc je vais mourir ?
Et revenir à la vie.
C'est ça votre plan ? Utiliser une potion magique sans date de péremption ? Si tu veux ressusciter, pourquoi tu prendrais pas la chevalière de John ?
Ce genre de bague ne protège que les humains. Le double est un être surnaturel. Il n'y a aucune chance que la bague fonctionne.
Enfin, je parierais quand même plus sur elle que sur votre élixir. Et on fait quoi si son plan échoue ?
Bah, vous n'aurez plus qu'à m'enterrer.
Et quoi ?
Klaus a réussi à réunir tout ce qu'il lui faut pour le sacrifice. Il a un loup-garou ?
Cela fait plus de 1000 ans que Klaus attend de pouvoir briser la malédiction. S'il n'a pas encore trouvé de loup-garou, d'après moi, d'ici ce soir, ce sera fait.
Est-ce que pour la deuxième saison, en tout cas les saisons qui suivent de cette série, est-ce qu'on est toujours dans la même configuration ou est-ce qu'il y a un autre développement ?
Ils vont continuer à développer la mythologie en amenant plein de personnages, en renforçant les interactions entre eux et les espèces et les gens de la ville, ce qui à mon avis est le meilleur élément de la série. La création des vampires par exemple, qui est finalement un acte d'amour d'une mère pour protéger sa famille, est un axe que je trouve assez sympa. Et alors pour donner du rythme, il y a beaucoup de changements d'état et de personnalité. Stéphane, par exemple, va renouer avec ses vieux démons pour sauver son frère et on va découvrir son passé sombre. Il était d'ailleurs surnommé l'éventreur, ce qui donnera plus de place à Damon et un peu plus d'intérêt à Stéphane qui était quand même très fade dans la première saison. Tyler, par exemple, est humain, puis loup-garou, puis hybride créé par Klaus. Ça aussi, on part d'un personnage vraiment de footballeur de base et on va en faire quelqu'un avec beaucoup plus d'épaisseur. Caroline, qui était l'humaine bimbo écervelée, cheerleader, va devenir vampire. Et les créateurs auraient pu tomber dans la facilité et en faire une Barbie vampire. Mais ils vont vraiment éviter le piège, ils vont donner vraiment de la consistance à son personnage. Et d'ailleurs, je trouve ça enfin un des personnages les plus attachants de la série. Alaric, le prof de science, va devenir tuteur d'Elena et Jérémy et deviendra ensuite un super vampire tueur de vampires suite à un sort d'Esther, donc la mère des originaux, parce qu'elle veut tuer tous ses gamins pour arrêter un peu le massacre. Ce qui est un peu lourd d'ailleurs, je trouve, ce changement de petit prof de science super uber vamp, c'est un peu lourd. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré que les personnages principaux soient jeunes, on se focalise pas sur l'école. On a vraiment toutes les interactions entre les adultes, les aînés, les enfants dans la ville. Beaucoup d'intrigues entre eux. Et ça, je trouve, ça le fait un peu sortir du carcan Dawson.
Est-ce qu'à côté de ce noyau de personnages principaux, est-ce qu'il y a, au niveau des personnages secondaires, un énorme turnover? Parce que je me doute que, bon, il y a des morts, il y a des, pour lesquels ils ont reçu des sorts, donc ils reviennent. Est-ce que voilà, ça bouge beaucoup de ce côté-là ?
Ça bouge beaucoup et c'est tout l'avantage des créateurs, c'est de ne pas être limité évidemment par le réalisme et de pouvoir tuer et faire revenir après certains personnages. Alors malheureusement, on a parfois l'impression que c'est pour contenter les fans plus que pour faire avancer l'intrigue. Mais effectivement, les personnages secondaires, alors qu'ils sont vraiment relégués au second plan dans la première partie de la première saison, ils vont se faire plus présents et vraiment donner du corps au scénar. Parce que finalement, hormis certains caractères, genre la sorcière ou le prof, de chasseurs de vampires qu'on sort de leur boîte quand on est bloqué par le scénario, les trois personnages principaux sont finalement les moins intéressants de la série tant ils s'embourbent dans leur triangle amoureux. Comme une petite mention pour le personnage de Damon qui est très sarcastique et j'adore ça. L'arrivée des originels aussi va donner beaucoup de rythme et la crainte qu'ils vont inspirer vont forcer les héros à se positionner différemment, les héros et les personnages secondaires.
Et donc au final, qu'est-ce que tu as pensé de Vampire Diaries ?
On reste quand même sur un public cible très jeune et il y a une vraie frénésie qui s'est déclarée chez les ados. Il y a beaucoup de batailles sur les forums pour savoir si on préfère le couple Stelena ou Delena. Il y a eu une flopée de Teen Choice Awards qui ont été remportées. Les livres ont été très très lus par les ados aussi. Mais la série étant très différente, même dans les personnages, les créateurs s'assurent un suivi acharné chez les teenagers. Par contre, les acteurs, Encore une fois, pour ce genre de série, il est parfois difficile de croire que certains d'entre eux soient encore à l'école secondaire. Il y a quand même beaucoup de trentenaires. Et certaines prestations sont très moyennes, voire risibles en première saison. À croire que certains d'entre eux ont pris des cours de soap opéra avec Joey Tribbiani. Ian Somerhalder, par exemple, qui joue Damon et qu'on a pu voir dans Lost, entre autres, est souvent dans le surjeu. Et alors, son truc de faire les gros yeux est souvent vraiment ridicule. Heureusement, ne soyons pas mauvaise langue, il y a une vraie amélioration au fil des scénarios, parce que comme il y a pas mal d'acteurs inexpérimentés, on sent qu'ils sont de plus en plus à l'aise avec leurs personnages et arrivent un peu à s'en libérer pour vraiment créer un caractère. Par contre, je trouve la direction photo est très très belle. Je trouve les lumières sont belles, ça rend bien l'atmosphère d'une petite ville de province américaine. Pour la suite, la saison 3 s'est finie sur CW en juin. On peut s'attendre à pas mal de changements. Bon, normalement, la préoccupation première d'Elena sera plus de choisir entre ces deux soupirants, enfin j'espère, mais plutôt de savoir comment aborder son nouvel état. Et Klaus va finalement être vaincu, mais on n'est évidemment pas sûr qu'il va être tout à fait vaincu. Pour conclure, malgré de longues mises en place de situations et parfois des excès d'explications, la première saison passée, on peut être pris par les intrigues et surtout par la mythologie. Vampire Diaries peut vite devenir un petit plaisir coupable pour les fans de séries vampiriques.
Tu as dit que c'était une série qui avait été créée par les créateurs de Dawson. Est-ce que c'est aussi bavard ?
C'est assez bavard, hein. Donc il y a vraiment beaucoup d'explications. On tourne en rond parfois. Les discussions entre les amoureux, entre le triangle amoureux, sont parfois très longues et vraiment ralentissent beaucoup la série. Mais au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'action et les dialogues, en tout cas, seront plus intéressants. Donc, on sort du triangle amoureux et on a des discussions plus axées sur la mythologie, beaucoup plus art.
Et au niveau des effets spéciaux, puisque série vampirique,
oui, mais il y a
difficilement faire autrement.
Il n'y a pas des masses d'effets spéciaux. Il y a des bagarres, évidemment, qui sont très bien chorégraphiées. Et alors, quand les vampires passent de figure humaine à vampirique, le changement est très faible. Il y a juste les yeux qui deviennent noirs, quelques veines qui apparaissent et les crocs. Mais on n'est pas dans un changement avec la peau qui se tire comme chez Buffy et Angel. C'est quand même assez sobre. Par contre, ce qui retourne l'estomac, c'est le changement d'humain à loup-garou. Parce qu'en fait, tous leurs os craquent, se cassent et tous leurs muscles se changent et on entend vraiment tous les craquements. Donc ça fait assez froid dans le dos. Mais à part ça, pas énormément d'effets spéciaux.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.